Bonjour, je m'appelle Martine Podesto. Je suis directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Mon invité d'aujourd'hui a été président du Collège des médecins du Québec de 1998 à 2010. Il a fondé le centre de recherche Fernand Séguin de l'hôpital Louis H. Lafontaine et a créé la Fondation des maladies mentales. Il a des centaines d'articles scientifiques et quelques dizaines de livres à son actif, en plus d'être chroniqueur dans les médias. Dr. Yves Lamontagne, bienvenue chez l'éditeur et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bien, ça me fait plaisir.
Docteur Lamontagne, vous venez tout juste de publier un guide dont le titre est en dit long. En fait, le guide de survie du patient dans l'enfer du système de la santé. Vous y faites un constat alarmant dans un contexte de vieillissement de la population, vieillissement inéluctable, hein, bien sûr. On est face à la désuétude d'un parc technologique dans les hôpitaux, à une augmentation du coût des médicaments, à la réduction du nombre de lits disponibles, à l'engorgement des urgences, à l'accessibilité limitée aux médecins, aux soins, à la bureaucratie qui est paralysante. On a l'impression, Dr. Lamontagne, de faire du surplace depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris au Québec?
Mais je pense qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas le sens de l'organisation.
Oui.
Ça fait 30 ans, comme vous dites, qu'à chaque élection, les gens disent « on va mettre plus d'argent dans le système de santé, puis ça va aller mieux, puis tout ça. » Et finalement, il y a de l'argent, puis ça va pas mieux.
Ouais.
Donc moi, je me dis, est-ce que peut-être on pourrait se poser l'autre question, mm-hmm. c'est que si ça va pas mieux, est-ce qu'on n'a pas un problème d'organisation ouais. d'abord? Puis évidemment, les finances, on peut aller le plus loin possible. Mais quand ça fait 30 ans qu'on fait uniquement des finances, en pensant que ça va aller mieux, que ça va pas mieux, il faut se poser d'autres questions. Donc c'est un peu dans ce sens-là, en fait.
Ouais.
Puis l'idée, d'écrire le livre, bien, vous voyez, il y a comme deux choses. Guide de survie, c'est le patient comment ouais. qui se promène là-dedans.
Ouais.
Puis dans l'enfer du système de santé, c'est parce qu'il y a des problèmes. Comme je vous dis, ça fait 30 ans qu'on met de l'argent, puis ça ne change pas.
Ouais.
Alors ça, c'est les deux idées de base.
Ouais.
Mais en fait, je dois vous dire que ceux qui m'ont donné l'idée d'écrire le livre, c'est une équipe de télévision. Alors que j'étais sur un panel sur une équipe de télévision, j'ai demandé aux gens sur le plateau qui est capable de me dire où ils sont CLSC.
Ah,
oui. Bien, seul un comédien a été oui. capable de me le dire. Puis après, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire où est située la clinique dans son secteur? Personne.
Oui.
Alors moi, je suis parti du principe en disant, si le commissaire de la santé a démontré que 60% des gens qui vont à l'urgence n'ont pas d'affaires là, mais mm-hmm. devraient aller ailleurs... Mm-hmm. Bien, peut-être qu'ils vont à l'urgence parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs. Puis j'ai la preuve, là, je leur ai demandé, puis
ils
ne savent pas.
Oui, ils ne savent pas où aller ailleurs, effectivement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en allant à l'urgence, on sait que peu importe le nombre d'heures que ça va prendre, on va finalement être pris en charge. Est-ce qu'il n'y a pas ça un peu aussi? Tu sais, il y a cette espèce de découragement aussi devant la longueur, les listes d'attente, l'accès difficile à un médecin de famille. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un point dont vous parlez beaucoup. Mm-hmm. Il y a cette espèce de découragement peut-être de la population devant l'absence de connaissances aussi, bien sûr, des ressources
ouais.
disponibles. Mais on sait qu'en allant à l'urgence, bien, on s'inscrit sur une liste, on va être trié par l'infirmière et à un moment donné, ça peut prendre 5-10 heures, c'est pas grave, on sait qu'on va rencontrer quelqu'un. Il y a ça aussi peut-être, non?
Oui, bien ça, c'est un vieux réflexe des années 70, quand oui. l'assurance maladie a été créée, les gens, à ce moment-là, allaient chez leur médecin de famille. Évidemment, ils payaient. Puis là, quand c'est arrivé, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Bien, maintenant, plus de problème. Vous avez oui. un problème de santé, allez à l'hôpital.
Oui.
Je dois vous dire que la population oui. a très bien compris ça.
Oui.
Puis ça fait 30 ans que les gens ont ça dans la tête.
Oui.
Ça va pas bien, tu vas à l'hôpital.
Oui.
Alors que maintenant, on va en parler plus tard, dans la communauté, il y a plein d'affaires qui sont là,
oui.
qui peuvent vous rendre un grand service.
Oui.
Puis ça se développe encore de telle sorte que si vous êtes le moindrement au courant des ressources que vous avez mm-hmm. dans votre section, dans votre secteur, ouais. dans votre environnement, bien, vous n'aurez pas besoin d'aller à l'urgence, ouais. puis vous allez avoir autant confiance dans ces gens-là,
ouais.
à condition que, justement, les trucs qui sont faits dans la communauté soient bien équipés pour répondre
oui.
à vos demandes.
Et soient connus aussi, que la
oui.
bonne nouvelle soit
tout
diffusée et que les gens y aient
c'est
accès.
Ça.
Donc, vous parliez tout à l'heure de votre guide qui est divisé en deux temps.
Mm-hmm.
Et moi, j'aime insister là-dessus parce que je le trouve d'abord fort, fort bien fait. Et cette première partie est très éclairante. Donc, vous parlez donc dans la première section du guide des lacunes, des dérives de notre mm-hmm. système de santé. Il est question de la déshumanisation des soins, de la lourdeur de l'appareil bureaucratique, mais vous insistez insisté beaucoup, beaucoup, et je pense que c'est à l'ordre du jour de toute manière, sur l'accès difficile à un médecin de famille et à un spécialiste aussi, mais d'abord à un médecin de famille. Ce qui m'a surprise, moi, la lecture de votre ouvrage, c'est que tout de même, quand même, selon les dernières données de l'Institut canadien d'information sur la santé, on apprend pourtant que le Québec se positionne relativement bien par rapport aux autres provinces canadiennes. Et on aurait plus de médecins de famille qu'en Ontario par tranche de 100 000 habitants. Alors, comment expliquons-nous cet accès difficile aux médecins de famille?
Je vous dirais, il y a deux choses là-dessus. Il faut toujours faire bien attention quand on parle des données.
Ouais.
Quand on parle qu'il y a plus de médecins au Québec qu'en Ontario, c'est vrai. L'autre question, puis j'avais étudié ça quand j'étais président du Collège des médecins, est-ce que le fait d'avoir plus de médecins au Québec, ce sont tous des cliniciens? Mais la réponse, c'est non.
Okay.
Parce que à l'époque, en tout cas, il y avait 20 000 médecins au Québec, mais quand vous enleviez tous ceux qui sont dans l'administration qui ne voient pas de patients, incluant moi-même, j'étais président du collège, bien, on tombait à 16 000. Bien là, c'est les 4 000 autres, là. Alors que dans l'organisation d'information sur la santé, ils ont tout simplement pris le bottin puis ont calculé le total de ça. Alors c'est une des explications que finalement, le 20 000 qui est là, c'est pas un vrai 20 000, c'est plutôt un 15-16 000, d'une part. Puis d'autre part, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a plus de femmes en médecine que dans le reste du Canada.
Ouais.
Et ça, c'est une autre variable qui joue aussi, parce que les femmes, parfois, c'est toutes de jeunes femmes, et qui quittent pendant un bout de temps, lorsqu'ils ont une maternité, ce qui est très compréhensible.
Bien, absolument,
Mais dans le reste du Canada, comme il y en a moins, il y a moins de médecins qui quittent pendant un certain bout de temps.
Je pense aussi que les femmes, corrigez-moi, mais il me semble aussi avoir vu dans votre ouvrage que les femmes aussi consacrent plus de temps à leurs patients, ce qui est tout à leur honneur, donc en voient moins en bout de ligne, c'est bien ça. Hein?
Ouais,
donc ça fait une différence aussi.
Ça, c'est
aussi vrai,
puis logiquement, je dis tout le temps, hein, c'est là qu'on voit aussi pourquoi ils en voient moins. C'est qu'au total, au bout de l'année, la rémunération est moindre que celle des hommes.
Ah oui.
Parce que comme tout marche à l'acte,
bien,
plus vous prenez votre temps avec le patient, ce qui, à mon avis, on doit faire, là, on rentre dans l'humanisation, bien, ça, c'est correct. Alors que si vous êtes poussé uniquement à faire des actes, bien, c'est sûr que vous allez faire beaucoup d'argent, mais je ne suis pas sûr que le patient va être bien traité au point de vue humain, par exemple.
Ouais. Vous parliez tout à l'heure en introduction d'organisation. Et à un moment, dans votre guide, vous remettez pas ce fardeau, parce que, bon, c'est bien évidemment, il faut que ça vienne de l'État, d'une volonté politique, mais aussi vous soutenez que les médecins doivent participer eux-mêmes à l'organisation des services de santé entre eux. Comment pourraient-ils le faire, par exemple?
Bien, je pense qu'avant l'assurance maladie, les médecins participaient beaucoup de façon active. Quand ça s'est arrivé, bien là, je vous dirais, on a tassé les médecins pour faire des fonctionnaires.
Mm-hmm.
Et les fonctionnaires, bien, ils gèrent ça en fonctionnaires. Et ils oublient le know-how de comment on fait de la médecine, dont l'humanisation, prendre cet exemple-là.
Mm-hmm.
Dont combien de temps on voit un patient. Toutes ces vies, on dirait qu'on a fait de la médecine un truc comptable. Vous faites tel acte, vous êtes payé tant.
Mm.
Et puis quand vous faites tel acte, le plus vite que vous faites cet acte-là, le plus vous allez faire d'argent à l'autre bout.
Ouais.
Et il ne faut pas se leurrer, les médecins, comme tout le monde, quand vous avez une chance de faire plus d'argent, vous le faites. Donc ça aussi, ça fait partie de la déshumanisation. Donc ça a changé depuis les années 70. Et à ce moment-là, bien, tranquillement, je dirais, c'est un peu comme si le système s'était vicié. Puis, évidemment, comme les médecins sont moins impliqués dans la politique, alors qu'ils l'étaient davantage avant, bien évidemment, c'est fonctionnaires qui ont pris
ça.
C'est tout le monde qui s'en occupe, sauf ceux qui sont pris dans le système, qui sont les médecins qui devraient s'en occuper. Et deuxième des choses, c'est que je pense qu'il serait extrêmement important que les médecins s'unissent puis participent au changement. Puis quand ils ont des idées, s'ils en ont, parce que je dois vous avouer, je n'ai pas entendu souvent des groupes médicaux, les fédérations, entre autres, à sortir et dire, nous autres, on a une idée, là, puis ça coûterait moins cher puis ça serait plus efficace. Quand c'est le temps de l'argent, laissez-moi vous dire, on les entend dans les médias.
Oui, effectivement.
Mais quand c'est le temps de donner un coup de main, là, ils ne sont pas là.
Oui, puis c'est dommage parce qu'ils souffrent un peu d'un manque de confiance aussi, je pense, hein, de la part de la population.
Ben oui. Et ce qui va arriver, si on continue comme ça, effectivement, c'est que de plus en plus, la population va se tanner à un moment donné. Elle dit, écoute, c'est d'ailleurs, ça roule déjà, hein?
Mm-hmm.
Au prix qu'ils sont payés, comment ça se fait qu'on ne peut pas les voir?
C'est ça.
Alors ça, c'est... Puis politiquement, ça n'aidera sûrement pas les médecins, parce que les politiciens, à l'autre bout, autres, ils ont très bien compris que si on la population de leur côté, ils vont être capables de serrer la vis, pas à peu près.
Oui, absolument.
Alors, on ne se fait pas connaître de façon positive, parce qu'on sort toujours pour ne parler que d'argent. au lieu de sortir puis dire « on a des solutions. Idées ouais. ». J'en donne un exemple là-dedans, aussi simple que ça. Là, la dame qui va avec son petit-fils à l'aréna, puis elle reçoit une rondelle sur l'œil, puis elle a 6 points de suture. Ouais. Elle fait 3 cliniques sur la Rive-Sud en fin de semaine. L'infirmière est là, mais elle n'a pas de médecin.
C'est ça.
Finalement, la dernière chose, elle appelle le 411, elle dit « bien, pointez-vous à l'urgence ». Elle s'en va à l'urgence, elle rentre là à 4h de l'après-midi, puis elle sort à minuit du soir avec 3 points de suture qui aurait très bien pu être faite dans une de ces cliniques.
Ouais.
Et moi, je disais, pourquoi les médecins de ce coin-là ne se sont pas organisés pour dire aux gens, via les médias locaux, écoutez, à la fin de semaine, là, c'est cette fin de semaine-ci, c'est cette clinique-là qui est ouverte. La semaine prochaine, c'est l'autre, là, c'est l'autre. Et se diviser comme ça. Et à ce moment-là, là, on viendrait beaucoup plus crédible. Puis les gens diraient, hey, c'est super, on peut, puis avec un numéro central, puis qui vous accueillent. Pas compliqué, ça?
Ouais.
Mais non.
Ouais. Mais non. Vous parliez aussi de la bureaucratie qui est d'une lourdeur extraordinaire au Québec. Et dans votre livre, vous citez l'exemple de la Suède. J'aimerais que vous m'en parliez parce que c'est quand même extraordinaire de voir la différence, en fait, de voir ce qui se passe en Suède. Pour une population de quoi? 9,5 millions d'habitants?
À peine un million
de plus que chez nous. Expliquez-moi cette grande différence.
Ben, j'ai l'impression qu'eux sont beaucoup mieux organisés d'abord. Ici, au Québec, on a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Et là, ce sont des non-soignants.
Ouais.
J'élimine tous ceux qui sont soignants là-dedans. Mm-hmm. 100 000 personnes. En Suède, pour une population à peu près identique, 1 million de personnes de plus, il y en a 30 000. Ouais. Et moi, je dis tout le jour où les Suédois sont complètement sautés, ou c'est nous autres qui n'ont pas compris quelque chose.
Ouais. Ah ben c'est sûr.
Alors, eux autres, ils ont une bonne efficacité.
Ouais.
Voyez, en santé, je pense que, si ma mémoire est bonne, ils ont 3 ou 4 ministres. Mais c'est un qui s'occupe d'une affaire, l'autre s'occupe... Ici, on en a 2, en fait. Un qui s'occupe de la santé, puis l'autre des affaires sociales, plus. Mais ça roule, puis ça roule bien.
Ouais.
L'autre élément qui est important aussi dans ces pays-là, c'est qu'ils ont beaucoup de connivence dans ce que j'appelle les collaborations privées-publiques.
Ouais.
Alors qu'ici, aussitôt que quelqu'un dit « privé », tout le monde gèle.
Une meilleure informatisation aussi, je pense, des systèmes...
Ça, c'est une autre affaire.
D'ordonnances, par exemple, des dossiers médicaux.
100% en Suède, ils sont informatisés. Ici, on est rendu à peine à 20%.
Oui, puis on peine à installer...
Puis ça a pris du temps. Puis vous savez, avant ça, ils ont reparti une autre affaire. Mais avant ça, il y avait le dossier Santé Québec. Moi, j'étais là à ce moment-là. Bien, imaginez que le gouvernement a perdu 52 millions pour des gugus... qu'à la fin, ils sont arrivés, puis on a dit, ben non, ça marche pas, on oublie tout ça, puis on a recommencé complètement à neuf.
Oui, Seigneur.
Alors que j'avais déjà dit à Mme Marois, c'était relativement simple. À McGill, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un programme américain, ils payent les droits d'auteur dessus, puis paf, le lendemain matin, t'es prêt à partir. Alors moi, j'ai dit, c'est simple, pourquoi vous achèteriez pas ce programme-là? On va le traduire en français, tout simplement, puis on va payer les copyrights, les droits d'auteur qui sont là-dessus, puis on va se servir de ça. Elle m'avait répondu à l'époque, mais vous savez, Dr. Lamontagne, c'est pas québécois, ça. Puis il faut donner à l'industrie québécoise des choses.
Malheureusement, l'exemple québécois n'est pas toujours le meilleur.
C'est ça.
On aurait avantage à tirer à s'aider de ce qu'on voit
bien
chez
sûr,
nos voisins.
Bien sûr.
Effectivement.
Et ça aussi, ça coûte cher. Puis voyez-vous, l'informatisation, elle est commencée, mais elle est loin d'être terminée d'une part. Puis comme ça a pris tellement de temps, il y a un autre problème. Bien, c'est qu'il y a certaines cliniques, des grosses cliniques, qui eux-mêmes se sont informatisées. Alors, ils l'ont déjà. Alors là, eux, ce qu'ils disent, quand j'arrive avec le programme du gouvernement, moi, ça ne marche pas avec mon programme que j'ai mis là. Mm. Puis demandez-moi pas de recommencer parce qu'il est fait, le mien.
C'est ça.
Alors là, il y a un double problème. Ouais. C'est que ça a pris tellement de temps que certaines cliniques se disent, nous autres, on va s'organiser tout seul.
On parlait donc de cet ouvrage construit en 2 temps. On parle maintenant de la deuxième partie de l'ouvrage qui est fort intéressante, où on trouve vraiment des conseils très, très, très pratiques, mais aussi des constats. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça peut être écorchant quand même pour, les médecins, parce que vous présentez certaines analyses qui ont été faites, pas par vous, là, par certains médecins, donc qui sont médecins eux-mêmes et qui ne sont pas très tendres envers leurs collègues. On dit que de façon générale, et j'ajoute de façon générale parce que c'est toujours un petit peu embêtant de faire des généralités comme ça, mais c'est quand même un constat qui est assez sévère, que les médecins, donc, sont perfectionnistes, entêtés rigide, que plusieurs sont plus soucieux de leur statut, de leur carrière, que du bien-être du patient. En résumé, ce qu'on dit, c'est que les qualités d'empathie, d'écoute, de respect des patients semblent sous-représentées. Docteur Lamontagne, peut-on penser que le problème se situe beaucoup, beaucoup à l'entrée des facultés de médecine, où les dossiers sont jugés, ou en fait, les postulants sont jugés en fonction de l'excellence de leurs résultats scolaires et non de leur personnalité? C'en est un problème, ça aussi. C'est
Ça fait longtemps que je prône ça, effectivement. Où je dis tout le temps, pour entrer en médecine, c'est la fameuse cotère qui est bien importante. Et là, vous voyez, ça joue déjà au départ à deux niveaux. La cotère la plus haute, c'est qui l'a? C'est les filles. Parce que les filles sont plus studieuses que les gars, ont des meilleurs résultats scolaires que les gars. C'est pas étonnant qu'il y ait 68 % des étudiants en médecine sont des femmes maintenant. J'ai rien contre ça. Mais déjà, vous avez une discrimination sur les notes. Bon. Et ça, la cotère, ça dit pas si vous êtes humain ou pas.
Non.
Et donc, moi, des fois, je leur dis, le malheur, c'est que souvent en médecine, c'est des petits nerds qui rentrent là, mais ils n'ont pas de cœur. Ils sont super intelligents, mais ils n'ont pas de cœur. Ouais. Alors, c'est là qu'il faut revenir.
Et peut-être qu'aussi, les habiletés sociales ont eu moins de chances de se développer, justement, dans un contexte où les jeunes sont studieux, ne font que ça, étudier, parce que pour rentrer en médecine, ça prend des notes extraordinaires. Ouais. Très, très peu de
personnes. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est à cause de ça, quand vous regardez ça, ils sont très, très bons d'avoir des notes, mais ils se mettent beaucoup de tension.
Ouais.
Et là, ce qui arrive maintenant, c'est qu'une fois rendu en pratique, ils trouvent ça tellement dur qu'ils décompensent. Le programme d'aide aux médecins les années 70, vous aviez des médecins qui étaient 40 ans au-dessus et vous aviez des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie. Maintenant, au programme d'aide des médecins, c'est de 25 à 40 ans. Puis vous avez des problèmes
de détresse psychologique.
Burn-out,
de
dépression et d'anxiété.
Ouais.
Alors, vous voyez, en quelque part,
sont...
comme on est toujours, toujours poussé, moi j'appelle ça serrer le citron comme il faut, bien, à un moment donné, quand il n'y a plus de jus, là, ça casse.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est un peu un malheur pour les jeunes.
Ouais.
Je dois dire de façon positive, par contre, qu'à partir de cette année, c'est l'Université de Montréal qui a parti ça, puis évidemment, ils sont allés chercher ça en Ontario, c'est qu'avant que vous entriez en médecine, on vous envoie un espèce de questionnaire chez vous, que vous remplissez. Puis là, il y a des choses sur l'humanisme.
La personnalité. Okay.
Ouais. Donc, ça, c'est une bonne façon d'évaluer la personnalité des gens qui s'en vont en médecine. Et là, ils ont commencé ça cette année.
Ben, c'est une excellente nouvelle. Très, très, à l'Université de Montréal, je pense. Hein?
Ouais,
ben, espérons que d'autres facultés de médecine vont emboîter pas aussi cette initiative que je trouve très, très pertinente. On parle donc d'empathie, de qualité de cœur, d'écoute, etc. Mais c'est quoi, Dr. Lamontagne, les qualités d'un bon médecin?
Moi, je dirais un bon médecin, la première des choses, c'est l'écoute.
L'écoute,
oui. Évidemment, je suis un peu biaisé de par ma spécialité, la psychiatrie.
Psychiatrie
là. Mais c'est l'écoute. Donne une chance au patient de s'exprimer quand il vient. On dit à peu près, il y a des études qui avaient démontré qu'au maximum, après 2 minutes, le patient a un peu de rien à dire. C'est le médecin qui pose des questions, bing, bang, bing, bang. Puis 6-7 minutes, vous sortez de là avec une prescription pour des analyses de laboratoire. Au niveau des relations, c'est pas fort. Là.
Non, effectivement.
Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est ça qu'il faut développer. Maintenant, là, c'est la poule et l'œuf. Plus vous allez avoir d'humanisme, plus vous allez prendre du temps, puis moins vous allez être payé dans ce système-là.
Oui, c'est ce que vous expliquez. Donc, éventuellement, aussi. C'est pas un acte payé, l'écoute.
De parler, c'est pas de c'est parler aux patients, c'est pas payant.
Mais on démontre en même temps que les patients qui ont ce sentiment d'avoir été écoutés, d'avoir reçu beaucoup d'attention, guérissent, je ne veux pas dire une chose énorme, mais se portent mieux, je pense.
Ah non, c'est démontré.
C'est démontré,
effectivement.
C'est ça.
Effectivement. Quand vous sentez. Il faut faire attention de ne pas tomber dans, comment je dirais, mettons comme ça, dans la sympathie, mais il faut tomber dans l'empathie. Parce qu'évidemment, si on tombe dans la sympathie, on se fait prendre émotionnellement, puis là, on serait pris avec chacun des patients. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'empathie, ça. Puis l'écoute, ça fait partie de l'empathie. Et ça, c'est un élément qui est aussi important. Mais ça prend plus de temps, c'est sûr.
Ce qui est important aussi, c'est d'être un bon patient. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant que vous insistiez là-dessus aussi. Parce que le bon médecin, on attend beaucoup de choses de notre professionnel de la santé, mais nous, comme patients, on a une responsabilité aussi. Quelles sont-elles?
Ça, c'est dans l'enseignement pour que le patient, quand il vient voir le médecin, qu'il soit préparé lui aussi. Donc, je dis, prenez des notes. Votre médication, mettez-vous ça sur un petit carton pour poursuivre. Quand vous venez voir votre médecin. Si vous avez des questions précises,
les noter avant de rencontrer
pour ne pas arriver. Parce que là, ce n'est pas le temps. comme tout le monde est pressé, etc., c'est pas le temps de rentrer dans le bureau du médecin puis de parler de votre partie de golf de la fin de semaine passée.
Non.
Donc ça, c'est quand même un élément qui est important. Et de cette façon-là, vous établissez une meilleure relation avec votre médecin aussi. L'avantage puis le désavantage en même temps, c'est que maintenant, avec Internet,
oui.
vous pouvez aller chercher un tas d'affaires sur Internet. Oui. Évidemment, continuons d'aller sur les bons sites
d'Internet. Oui, mais le problème se trouve là, hein, parce qu'on n'a pas toujours accès à des informations.
Mais quand vous arrivez voir votre patient, vous êtes déjà beaucoup plus instruit que vous ne l'étiez il y a 30 ans passé.
Oui.
Donc, en même temps, moi, je trouve que c'est un beau challenge pour le médecin. J'ai déjà dit ça à un de mes confrères, parce qu'il disait, écoute, quand tu vas à la télévision, tu parles de ça, tu m'aides pas, parce que quand le patient vient, il me pose un paquet de questions, puis il connaît ses affaires. Ah, ben, c'est parfait.
Ouais.
Ça, là, ça t'oblige à faire la formation médicale continue.
Oui, mais il y a un danger de glissement aussi, puis vous le décrivez très bien dans votre ouvrage aussi, c'est que cette espèce de connaissance à laquelle on a accès, comme ça, via Internet, bien sûr, aide le patient à bien se préparer à sa rencontre avec le médecin, mais il y a aussi le danger de se taux-diagnostiquer toutes sortes d'affaires, d'arriver chez le médecin et dire, ben moi, je sais, j'ai un bouton c'est un cancer.
C'est ça.
Donc, les médecins doivent détester ça aussi.
Ouais.
Donc, il faut aussi se retenir dans
cette... Puis, il faut aller voir dans les bons sites. D'ailleurs, j'en cite deux, trois là, qui sont très, très corrects. Là. Bien, c'est sûr que quand vous allez voir le médecin, bien, lui aussi peut être placé en mauvaise position parce que s'il est le moindrement en retard sur les études médicales, bien là, ça peut le rendre un peu anxieux, voyez-vous, parce que là, c'est rendu que le patient sait plus que lui.
Ouais.
Alors là, si vous n'avez pas une bonne relation à bord de ça avec le patient, ça risque de faire des flamèches.
Donc, Internet, c'est à doser, c'est ce qu'on retient.
Ah oui, tout
doser.
À fait. Ah non, il faut.
Doser. Oui. Vous parliez tout à l'heure un petit peu plus tôt des ressources, en fait, qu'une personne de votre entourage vous disait, ben moi, en fait, je connais le CLSC de mon quartier. Les autres personnes autour de la table disaient, non, moi, j'en ai aucune idée. Donc, il y a des ressources, elles sont bien là, vous le disiez tout à l'heure. Où consulter? Où est-ce qu'on peut consulter? Bon, mis l'urgence, bien évidemment, on a mis ça de côté. Parce que, bon, il y a le service InfoSanté, il y a les pharmacies aussi.
Oui,
le pharmacien peut être d'un grand, grand, grand secours. Il y a les cliniques de quartier, les cliniques réseau. Et il y a un bel exemple, en fait, je veux qu'on parle de ça. Ce n'est pas installé partout, surtout en région, mais les fameuses coop de santé qui ont de belles, belles initiatives aussi. Parlez-moi de ça. Je sais que vous êtes membre d'une coop à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Comment ça se structure? Comment ça s'organise?
Bien, voyez-vous, ce que j'aime là-dedans, puis je parlais à un moment donné de la collaboration privée-publique. À Sainte-Marguerite, pour prendre celle-là, il y avait le vieux docteur Godette qui avait 80 quelques années puis qui tenait ça à bout de bras. Mais évidemment, ce pauvre lui, il était fatigué. Bien, fait qu'à un moment donné, il a démissionné et il n'y avait plus aucun médecin à Sainte-Marguerite. Et il y a une dame qui, elle, a dit, bon, on va régler le problème, on va se partir une business, j'appelle ça une business. Elle, c'est elle qui a créé la coop santé.
Une dame, est-ce qu'elle était non-médecin?
Qui demeure à Sainte-Marguerite. On va s'occuper de nos affaires. Donc, elle a contacté le conseil de ville, toutes les associations qui étaient là, puis dire, on se part ça. Et c'est elle qui a bâti ça, si je peux dire. Bien là, une fois que c'est établi maintenant, vous avez trois médecins qui sont là. Vous avez une pharmacie, vous avez une infirmière praticienne, super bien organisé, voyez-vous. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que la population de Sainte-Marguerite s'est prise en main et a dit, nous autres, on n'a pas de service. Bon, on va s'en créer des services, puis on va investir dans nos services. Et pour devenir membre de la coop, ça coûte 90 $ par année. Là, il y a eu, évidemment, toujours pareil, il faut qu'on soit tous nivelés par le bas, de dire, mais si vous n'êtes pas
membre
de la coop, ils ne vous prendront pas, blablabla. Et là, ça fait peur un peu. Donc, ils se sont gardés des plages horaires.
Pour les non-membres.
Voilà. Alors, c'est une façon de passer un peu à côté.
Et les non-membres doivent payer, j'imagine, pour la consultation? Doivent payer quelque chose?
Non, pas
c'est
du tout. Ça fait partie de la médecine étatique.
Okay.
Alors... Mais quand même, remarquez, à moins d'être sur le bien-être social, il va avoir de la misère à manger, 90 $ par année pour la famille au complet.
C'est pas
beaucoup de monde.
Non.
Mais ce que je trouve extraordinaire là-dedans, justement, c'est cette combinaison public-privé.
Oui.
Et souvent, quand les gens chialent sur le privé comme ça, bien, il y a des initiatives qui peuvent être prises puis qui sont très, très intéressantes.
Ouais.
D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, la plupart du temps, depuis 1977, des collaborations privées publiques existent, savez-vous, dans les CHSLD pour les personnes âgées. Et ça s'appelle des centres privés conventionnés.
Okay.
Ce sont des privés qui appartient le centre.
Le centre.
Ils l'administrent et tout. Ils ont un budget gouvernemental, mais qui correspond au même budget qui sont donnés dans les trucs publics, en répondant aux mêmes critères pour les syndicats, etc. Le seul endroit où ils peuvent faire de l'argent, c'est sur l'administration. Et il n'y a pas un de ces centres-là qui est fermé à date. Donc, c'est parce que c'est bien géré.
C'est ça, exactement. Ouais.
Et vous avez jamais entendu qu'il y a eu des scandales dans un de ces centres-là. Mm. Alors, ça en est une autre belle initiative, des centres privés conventionnés.
Ouais.
Et ça marche depuis 1977, imaginez. Alors, c'est une bonne chose. On sait que la population est vieillissante. Là.
Ouais.
Alors, nécessairement... Ouais.
Une autre excellente chose, je pense, c'est l'avènement des cliniques de super infirmières.
Oui.
Ça semble être une solution hyper prometteuse. Le Québec, encore une fois, malheureusement, accuse un retard par rapport à l'Ontario, par exemple. En 2015, et ça, je cite des données là, qui sont inscrites dans votre ouvrage, on dit qu'en 2015, donc, l'Ontario comptait 2587 IPS dans 25 cliniques pour desservir 40 000 patients. Et par comparaison, en date du 31 mars 2016, Québec en comptait 325. Pourquoi cette lenteur à vouloir instaurer ça, un service de première ligne qui contribuerait à régler une bonne partie de l'engorgement du système?
Ben, vous savez, ça c'est toujours... on revient à l'argent.
Ouais, okay.
On revient à si tu me prends certains actes, moi j'en aurais plus. C'est un peu comme si les médecins avaient crainte de pas avoir d'ouvrage. Alors c'est parti de là. Moi j'étais là au début, effectivement. Et c'est intéressant comment c'est arrivé parce que quand on parlait des infirmières praticiennes, il n'y a pas un docteur qui voulait avoir ça dans le portrait. Mais à un moment donné... Trois associations sont venues me voir au Collège des médecins, soit les gens qui travaillent en cardio, les gens qui travaillent pour les greffes de rein, la dialyse, les néphrologues, donc, et ceux qui étaient en néonatologie, pour les petits bébés tout petits, les ultra spécialisés. Et ces trois associations-là sont venues me voir en disant, écoutez, docteur Lamontagne, on n'a plus de résidents presque dans ces spécialités-là. Puis là, on n'arrive pas, là, on va travailler 24 heures par jour, tout le monde. Mais on a des infirmières qui travaillent avec nous autres, qui, par leur expérience, sont excellentes. Accepteriez-vous qu'ils deviennent des super infirmières? Alors, puis moi, j'avais une nouvelle à ça. Fait que c'est sûr qu'on a dit oui. Mais vous voyez, s'il n'y avait pas eu de demande, là, laissez-moi vous dire qu'il ne serait pas venu. Ça a commencé comme ça.
Ouais, okay.
Puis là, après ça, une fois parti, bien là, il y en a d'autres qui ont dit, bien, nous autres avec, ça aurait de l'allure. Ouais. Alors, vous voyez, comme là, un exemple que j'ai, que malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais je pense qu'en psychiatrie, Dieu sait, moi, j'ai connu des infirmières psychiatriques qui étaient excellentes. Puis on devrait avoir des infirmières praticiennes spécialisées en psychiatrie.
En psychiatrie aussi.
Mais ce n'est pas encore fait.
Docteur Lamontagne, on change de registre complètement parce que à ce moment-ci de l'émission, je demande toujours à mes invités de me parler d'un auteur important pour eux qui a fait date en fait dans votre parcours de lecteur. Et vous allez nous parler aujourd'hui de Marc Séguin, qui vient tout juste de publier un magnifique ouvrage dont le titre est « Les repentirs » dans une toute nouvelle collection dirigée par Daniel Lorrain. La collection 3. Et vous avez choisi de nous parler de cet auteur. Pourquoi?
Bien, d'abord, je n'avais entendu parler avant parce que c'est un peintre célèbre à New York. Ses toiles se vendent pour des prix de fou. Puis c'est un peintre très, très connu. Mais ce que j'aime, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore à la télé, c'est qu'en même temps, il s'implique dans la société. C'est un environnementaliste. En même temps, il y a une ferme. En quelque part, je pense que c'est dans les cantons de l'Est, puis il s'occupe de sa ferme aussi. Donc, il est multidisciplinaire, si je peux dire, et il a en même temps conscience de la société.
Mm.
Et ça, pour moi, c'est des trucs importants. Et je suis même pas sûr s'il n'avait pas donné une œuvre ou s'il n'a pas participé à une exposition des Impatients, qui est un groupe qui aide les malades à s'exprimer par l'art. Alors, à ce moment-là, c'est un homme en même temps qui est généreux.
Un artiste complet, d'une grande générosité, d'un grand talent aussi.
Tout à fait.
Ouais. Mm. Donc, vous allez nous lire un extrait de ce magnifique ouvrage, « Les repentirs ». Donc, on vous écoute, Dr. Lamontagne.
Elle avait dit, « D'abord, les fissures deviennent des crevasses qui deviennent un ravin. » C'était il y a quelques années. Je m'en souviens comme si c'était hier. On était debout à attendre que les portes ouvrent devant nous. Une salle communautaire générique de banlieue, qui pouvait servir autant de gymnase que de salle de théâtre, beige et grise, décorée pour la soirée de bouquets de fleurs en plastique trop belles pour être vraies, de ballons blancs, de banderoles de satin avec des choux en tissu autour de 3 mètres. Elle n'avait pas fini sa phrase. On était entrés, les gens applaudissaient et souriaient trop. Le maître de cérémonie, un inconnu sans profondeur, avait crié au micro « On accueille un couple extraordinaire. Elle est extra et lui ordinaire. On accueille ensemble Ariel et Marc. » Les gens avaient ri, c'était normal. Ça me dérangeait pas, j'avais pitié du gars, ça me faisait qu'alimenter ma rage et ma haine du monde, normal depuis toujours. Je m'étais marié pour elle, je n'arrivais pas à lui dire non. C'était avant que je comprenne véritablement la portée des mensonges. Je connaissais leur utilité depuis la petite enfance. Mentir m'avait gardé en vie. C'était avant aussi que la déception normale d'une vie en apparence honnête et mesurée n'apparaisse. J'aurais dû m'en douter, la mère d'Ariel était une folle, sans intelligence, qui lichait des thèmes comme si c'était un cornet de canne glacée et qui faisait un ragoût de pâte de cochon tous les samedis depuis 1971, une lasagne tous les lundis et qui arrosait l'asphalte et le clapboard des murs extérieurs de sa maison tous les samedis, sauf l'hiver. Elle vouait un culte aux produits qui tuaient les araignées et autres insectes domestiques, et elle passait ses soirs de semaine à regarder religieusement des téléromans à la télévision. Pour sa mère, la vraie vie était un manque, comblé par celle des autres. Elle racontait la même histoire de pamplemousse rose à chaque Noël. C'était vraiment spécial, les pamplemousses roses dans mon temps, quand j'étais petite. Je ne comprenais pas que la fille vienne de cette femme.
Donner envie beaucoup, en tout cas, je pense, de lire cet ouvrage, ce dernier de Marc Séguin, « Les repentirs ». Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette lecture, de nous avoir parlé de votre coup de cœur, Marc Séguin, et d'avoir aussi participé à l'enregistrement de cette émission. Donc, je vous remercie. Je rappelle encore une fois que les gens peuvent se procurer le guide du patient, le guide de survie du patient dans l'enfer du système de la santé, qui est en librairie depuis quelques semaines.
Oui.
Merci beaucoup.
Bien, au plaisir. Au revoir.
Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique, réalisée par Philippe Collard. Si vous aimez notre émission, je vous encourage à le manifester en donnant une note ou en rédigeant un commentaire sur la page de Chez l'éditeur dans la boutique iTunes. Le thème musical de l'émission est l'œuvre de Monopole. La deuxième pièce que vous avez entendue est une composition de Puddington Bear. Je vous invite à passer nous voir à notre café littéraire chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert, à Montréal. Je suis Martine Podesto et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Chez l'éditeur.